pas de journal aujourd'hui, mais une émission spéciale consacrée aux lycéens manosquins et à la COP 21. En effet, des lycéens manosquins ont planché sur la COP 21 et sur le développement durable. Au départ, un projet s'inscrivant dans un programme scolaire souple à destination des élèves de première et terminale, et au final, une émission radio. Une belle opération citoyenne conduite par Muriel Morel, professeur au lycée Félix Esclangon à Manosque, et qui a impliqué plusieurs de ses élèves pour se documenter, argumenter et enfin intervenir à la radio. L'exercice n'est pas scolaire ou si peu, mais il est pertinent et les réflexions des jeunes citoyens sont pleines de sens. Production et consommation d'énergie, gestion des déchets, alimentation, croissance économique et environnement ou les résultats de la COP 21, autant de thèmes et sujets abordés par les lycéens et leurs enseignantes au micro de François Malabave, avec une question principale: comment agir dans notre vie quotidienne pour adopter un comportement plus durable? Quelques réponses dans ces entretiens. Nous entendrons Justine, Mona, Erin, Juliette, Lucine, Céline, Léa, Laura et Amy, ainsi qu'Anthony et Anis, et bien sûr, leur professeur Muriel Morel.
Muriel Morel, vous êtes professeur au lycée Félix Esclangon et vous avez travaillé avec vos élèves sur les questions d'environnement liées à la COP 21. Pourquoi ?
Parce que cette année, on a eu la chance de voir cette conférence sur le climat se tenir en France. Et le thème est aussi récurrent dans l'enseignement donc de sciences économiques et sociales des élèves, aussi en histoire géo ou dans d'autres matières. Ce sont des élèves de la filière ES, de première et terminale, qui dans le cadre donc de l'enseignement civique et moral vont consacrer une partie de leur travail à cette problématique, à se demander donc comment est-ce qu'on pouvait vivre dans un monde où l'environnement prendrait la place sur l'ensemble des autres modèles productifs.
Vous les avez trouvés réceptifs à ces problématiques ?
Oui, ils s'intéressent à ces problématiques, ils se posent des questions sur leur mode de vie, même si les difficultés qui sont de mise en œuvre sont évidentes et que chacun n'a pas toujours les aptitudes pour modifier son mode de consommation, pour appliquer un mode de consommation plus durable.
Ce travail va bien au-delà de la simple approche scolaire.
Oui, alors on a la chance en enseignement donc civique et moral de faire travailler nos élèves un petit peu différemment. On est moins tenu par des obligations d'évaluation ou de programmes stricts puisqu'il n'y a pas d'objet d'évaluation bac. On retrouve aussi quand même cet enseignement, nous, sur la classe de terminale où on se pose la question donc de la soutenabilité de la croissance. Donc est-ce qu'on peut continuer à vivre dans un monde où les ressources sont finies et où notre croissance serait infinie?
Comment se sont documentés vos élèves ?
Alors, ils ont travaillé sur Internet et aussi à partir donc de la presse, qu'elle soit hebdomadaire ou mensuelle ou quotidienne. On a différentes sources d'informations. Ils ont suivi donc la COP 21 à travers la presse. Et après, ils ont fait un travail de recherche pour tout ce qui est impact sur leur mode de vie. Ils ont essayé aussi de contacter leur commune ou des agents économiques, des restaurants, etc., pour voir comment, selon l'alimentation, la gestion des déchets, chacun procédait. Ils se sont aussi interrogés dans leur famille sur les modes de fonctionnement.
Vous avez découvert des qualités particulières chez vos élèves grâce à ce travail ?
Ils ont essayé de développer un travail en autonomie. Alors certains ont très bien réussi. Il y a des groupes qui ont très bien fonctionné puisqu'ils travaillaient par groupe de 5. Donc des groupes ont très bien fonctionné. Il y avait aussi un objectif de restitution lors de la journée porte ouverte du lycée sous forme d'exposition. Pour d'autres groupes, ça a été beaucoup plus difficile. Et notamment, s'entendre ensemble, respecter des délais a été difficile. Mais c'est là où on trouve une différence entre ceux qui ont bien réussi, ce ne sont pas toujours d'ailleurs ceux qui ont les meilleurs résultats scolaires. Donc ils sont capables de s'impliquer dans un cadre qui est différent du cadre scolaire.
Et en parlant de cadres différents du cadre scolaire, celui d'une radio, c'est aussi particulier. Comment avez-vous approché cette émission ?
Ça a été un peu difficile, hein, paradoxalement. Je pensais qu'ils allaient vouloir tous intervenir à la radio. Et pour le coup, si certains étaient volontaires et parties prenantes dès le départ, pour d'autres, hein, venir parler à la radio, c'était quelque chose de très difficile. J'ai eu beaucoup, beaucoup de refus. Donc je remercie d'ailleurs les élèves qui ont pris ce risque-là aujourd'hui hein, et qui ont joué le jeu donc de cette participation à la radio. Donc ils ont préparé leur intervention. C'est vrai qu'il va falloir qu'ils arrivent à parler correctement en se détachant un petit peu de leurs notes et en mettant sous une forme qui n'est pas une forme d'exposé classique, mais je pense que je leur fais confiance et ils vont y arriver parfaitement.
On va voir tout de suite ça avec la première intervenante, c'est Justine qui va s'y coller. Justine, tu as travaillé toi sur la croissance économique et évidemment l'impact sur l'environnement de cette croissance.
Oui, exactement. Il faut déjà savoir que plus un pays consomme, plus son empreinte écologique est forte. Donc si, par exemple, on va dire qu'un Américain Pour vivre, il lui faut 5 planètes et un Français, il lui en faut 2. Donc avec des pays tels que la Chine, les États-Unis et même la France, on peut penser que la croissance économique nuit alors à l'environnement si on réfléchit comme cela. Cependant, le terme de soutenabilité de la croissance renvoie à l'idée d'aide, de renfort pour l'environnement, et même s'il existe une corrélation, certes négative, entre la croissance et la préservation de notre terre, il existe aussi une relation de contribution. En effet, le stock de capitaux, qui comprend les capitaux physiques, humains, naturels et sociables, que possède une nation, peut améliorer la préservation de l'environnement, notamment le capital humain qui, grâce à une population plus qualifiée, va prendre conscience des dangers de l'environnement. Le progrès technique va donc rentrer en compte. On peut prendre l'exemple des voitures qui sont de moins en moins polluantes. Attention, le progrès technique n'est pas toujours positif pour l'environnement, comme par exemple en ce moment l'histoire des abeilles robots qui est en train de se développer au lieu de conserver la protection des abeilles. Ainsi, plus le stock de capitaux augmente, plus la croissance économique sera soutenable. Toutefois, il faut émettre une certaine réserve face au capital naturel, qui ne signifie ni pas en général une hausse de bien-être, par exemple avec les pays exportateurs de pétrole comme le Qatar, où une partie de la population va profiter de ce pétrole, mais une autre va vivre dans la grande pauvreté. C'est pour cela que la mise en place de politiques environnementales est importante, puisqu'elle permet de cibler les éléments du capital naturel à protéger, comme par exemple la banquise, la forêt tropicale, ou plus exactement chez nous le Luberon avec le gaz au schiste, afin de créer une soutenabilité forte, considérant les dommages faits sur ce capital plus ou moins irréversibles. N'oublions pas que désormais il faut une planète et demie pour satisfaire nos besoins. Il est donc essentiel de trouver une solution au plus vite. L'économie qui transforme l'énergie utilisable en énergie inutilisable peut être régulée par les États qui doivent mettre en place des mesures pour défendre la biodiversité et lutter contre le dérèglement climatique, par exemple la déforestation ou la fonte de la banquise, comme dit précédemment. Il est aussi important que chacun agisse pour limiter son impact environnemental. La COP21 est donc essentielle dans cette prise de conscience.
Et puis on s'est rendu compte également que les grandes firmes automobiles comme Volkswagen trichaient aussi sur le fait que ça polluait beaucoup plus que ce qui était affiché, leurs moteurs notamment diesel. Donc il faut être très vigilant là-dessus. À tes côtés, Mona et Anis qui ont travaillé également sur un sujet d'une manière très particulière puisque vous avez travaillé sous une forme questions et réponses, c'est bien ça Mona ?
Oui, c'est ça. En fait, on va commencer maintenant en présentant la COP21, donc où elle a eu lieu. Donc l'année dernière, la conférence annuelle sur le climat a eu lieu à Paris entre le 30 novembre et le 11 décembre 2015. On va se demander, la COP, qu'est-ce que ça veut dire ?
La COP, abréviation de conférence des parties, est une conférence supranationale sur l'environnement, ou plus précisément sur les changements climatiques. Elle est un peu la version environnementale de l'ONU. Chaque année, les participants de cette conférence se réunissent pour décider des mesures à mettre en place, ceci dans le but de limiter le réchauffement climatique à seulement 2 degrés. En 2015, la COP21 a lieu à Paris, comme on le sait tous. Qui décide ?
Les participants appelés parties sont les États signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, adoptée en 1992 à la fin du sommet de la Terre à Rio. Cette convention reconnaît l'existence d'un changement climatique d'origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène, selon le site officiel de la COP21. De ce point de départ déroulent les COP annuelles destinées à adopter des mesures pour que tous les États signataires réduisent leur impact sur le réchauffement climatique. Mais à quoi ça sert ?
Les décisions prises lors de ces conférences doivent être adoptées à l'unanimité des parties par consensus uniquement. Chaque session de COP est donc fondamentale car elle permet de faire un bilan de l'année écoulée, mais également de renouveler ou ajuster de précédents engagements. Pourquoi la COP21 est-elle si spéciale, Mona ?
Mais si la COP21, autrement dit la 21e édition de cette conférence, est si spéciale, c'est parce qu'elle a pour objectif d'aboutir à un accord universel et contraignant, qui prendra effet à partir de 2020 pour créer une véritable transition vers une économie et une politique mondiale éco-responsable. Une grande première pour la COP. On peut dire aussi, pour un des objectifs de cette COP21, était de réduire la consommation des ressources en créant des innovations renouvelables.
Les enjeux de la COP21 peuvent se décliner en 4 volets.
La première est donc la négociation d'un accord universel conformément au mandat de Durban qui établisse des règles et des mécanismes capables de relever progressivement l'ambition pour respecter la limite des 2 degrés Celsius.
Le second volet, la présentation pour tous les pays de leur contribution nationale avant la COP21 afin de créer un effet d'entraînement et de démontrer que tous les pays avancent en fonction de leur réalité nationale dans la même direction.
Puis, le volet financier qui doit permettre de soutenir les pays en développement et de financer la transition vers des économies bas carbone et résilientes, avant et après 2020.
Enfin, le renforcement des engagements des acteurs de la société civile et des initiatives de l'agenda des solutions ou plan d'action Lima Paris afin d'associer tous les acteurs et d'entamer des actions concrètes sans attendre l'entrée en vigueur du futur accord en 2020.
Pour conclure, la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu le 22 avril 2016 à New York a contribué aux signatures de plus de 175 parties dans 74 pays en plus de l'Union européenne.
Oui, en effet, c'est un moment historique parce que jamais auparavant, un aussi grand nombre de pays n'avait signé un accord international en une seule journée. On compte près de 117 signatures de l'accord international sur la même journée. C'est un chiffre historique qui dépasse le précédent record de 119 signatures pour une journée.
Et un bon résultat donc à mettre à l'actif des organisateurs de la COP21. À vos côtés, Erine et Juliette qui, elles, ont travaillé notamment sur la vie quotidienne et sur la question, par exemple, des transports.
Tout à fait. Nous avons choisi de parler des transports. Notre intervention va se dérouler en deux grandes parties. Donc tout d'abord les problèmes liés et causés par les pollutions des transports. Et ensuite les solutions envisageables pour lutter contre ces problèmes. Donc à partir du travail qu'on a réalisé en amont, nous avons trouvé une problématique intéressante à exploiter.
Comment peut-on vivre au XXIe siècle dans une société mobile tout en protégeant notre environnement et les générations futures ?
Donc pour commencer, le premier problème, c'est une raréfaction importante du pétrole. Donc il est intéressant de remarquer que voitures et camions consomment plus de 90% de ce pétrole et qu'une grande partie de cette énergie du transport est consommée en ville. On voit ici que les problèmes se lient. La voiture en ville provoque des encombrements, ce qui la fait consommer encore plus que d'habitude. Avec la raréfaction du pétrole, le prix augmente et le transport devient de plus en plus luxueux. Second problème, la pollution auditive. Les bruits liés au transport sont pour les Français la première cause de gêne. Aéroports, camions, deux roues, trains, métro, trafic urbain, etc. Cela entraîne de la fatigue, des troubles du sommeil, de l'inattention, de l'agressivité, voire des troubles psychologiques ou physiologiques plus importants. Donc voici quelques chiffres. 43% des Français disent être gênés par le bruit. 49% estiment que la situation du bruit en ville s'est détériorée depuis ces dernières années. 38% pensent que le bruit est un problème d'environnement très ou extrêmement préoccupant. Et 39% le jugent responsable du stress. Ensuite, nous savons que la pollution liée au transport est aussi atmosphérique. Les polluants dans l'air que nous respirons peuvent mettre en danger la santé humaine et dégrader les écosystèmes, influencer aussi les climats, provoquer des nuisances diverses. Et ensuite, cela a des conséquences sur la santé humaine qui ne sont pas négligeables, dont la bronchiolite, les irritations oculaires, la baisse des capacités respiratoires, la toux, l'asthme ou alors la dégradation des défenses immunitaires.
Il y a des solutions pour lutter contre ces problèmes ? Comme l'utilisation de nouveaux carburants, comme les carburants fossiles avec de l'essence et du diesel. Et ça, c'est la principale cause qui est responsable de la pollution des véhicules. Désormais, il existe de nouveaux véhicules plus respectueux de l'environnement, comme les véhicules électriques, et des gasoils comme le GPL ou le GNV. L'utilisation de tels véhicules par les citoyens, comme par les entreprises et les municipalités, contribuera à réduire les émissions polluantes. Donc, les véhicules électriques ne contiennent aucune émission d'hydrocarbures, de fumée ou de particules avec un bilan carbone très faible, et ils sont beaucoup plus silencieux que les véhicules à moteur traditionnel. Ces véhicules électriques nous permettent de limiter notre émission de gaz à effet de serre, mais ils présentent encore des inconvénients comme l'autonomie de la batterie et la rareté des bornes de rechargement. Ensuite, on a les transports en commun. De plus en plus de villes se mettent maintenant au tramway. Ce transport en commun est en effet plus rapide que le bus, mais aussi moins polluant car il fonctionne à l'électricité. Le bus est tout de même le moyen de transport en commun le plus fréquemment utilisé. En effet, avec l'avènement des nouveaux carburants, ils deviennent plus écologiques. Le covoiturage, c'est aussi un moyen simple et économique et convivial pour respecter l'environnement. Pour minimiser les problèmes liés au transport, vous pouvez réagir en tant que citoyen éco-responsable en utilisant par exemple le vélo, en privilégiant la marche à pied, en prenant les transports en commun ou en faisant du covoiturage. En ce qui concerne les élèves de notre classe de première, la majorité vient en bus, qu'ils habitent à Manosque ou dans les alentours, et certains font du covoiturage ou viennent à pied. Et en ce qui concerne notre ville, donc Manosque, il y a un réseau de bus transaglo qui dessert 26 communes pour 1 euro, quelle que soit la longueur du trajet. Et la ville de Manosque possède également son réseau de manobus gratuit et une piste cyclable.
soit la couleur de la peau, le pays d'origine, costume saribou ou sombrero. En pousse-pousse, en pirogue, en vélo, en mob, en limousine, les pistons plein les poches ou rien sous l'eau. Heureux, malheureux, fier la peau douce, les grands, les petits, les jaunes, les rouges, les blancs, les noirs, les brunes, les rousses. Dès que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est dès que l'on respire, c'est le même pour tous. Céleste empire au pays pamplemousse. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. De nos ancêtres du fond des agents, nos pieds bambins qui poussent. L'air que l'on partage, c'est le même pour tous. C'est le même navire pour l'amiral ou le mousse. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est le même, c'est le même pour tous. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est l'air que l'on respire, c'est le même pour tous. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est l'air que l'on respire, c'est le même pour tous. Prosper, you, plabou, tous les hommes de fer, les athées, les messies, les pim pam poum. Amoureux de Prince ou Dom Kassou, vivant sur la terre, dans les cases ou les bolivins gros. Heureux, malheureux, fuyez à la peau douce, les grands, les petits, les jaunes, les rouges, les blancs, les noirs, les brunes, les rouges. Que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est que l'on respire, c'est le même pour tous. Du céleste empire au pays pamplemousse. C'est que l'on respire, c'est le même pour tous. De nos ancêtres du fond des âges, nos petits bambins qui poussent. Et que l'on partage, c'est le même pour tous. Cœur qui charrie, chanteur qui se trémousse. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est le même, c'est le même, c'est le même pour tous. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est l'air que l'on respire, c'est le même pour tous. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. Que l'on respire, c'est le même pour tous. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous. C'est l'air que l'on respire, c'est le même pour tous. L'air que l'on respire, c'est le même pour tous.
C'est au tour d'Anthony de parler. Anthony qui a planché sur les questions liées à l'alimentation.
Oui, l'alimentation, surtout aussi au niveau local, avec quelques ouvertures sur l'alimentation qu'on pourra avoir dans le futur. On voit que l'alimentation locale déjà a plusieurs avantages, qui sont le fait qu'on connaît l'origine de la nourriture, donc on fait plus confiance. Généralement, les productions locales sont plus respectueuses de l'environnement. Il y a une sauvegarde de patrimoine. Aussi, ça limite les pertes énergétiques, tout ce qui est en transport, en livraison et tous les trucs comme ça. Donc il y a plusieurs avantages, même s'il y a quand même quelques inconvénients, puisque aujourd'hui on utilise beaucoup des pesticides et autres engrais dans les productions, même locales. On peut voir ici à Manosque, par exemple pour les champs de pommes, il y a beaucoup de pesticides, malheureusement. C'est bien dommage. L'État a lancé quelques directives pour que l'alimentation écologique et biologique soit plus couverte médiatiquement et surtout soit intégrée dans les populations. On peut citer le programme Produire et manger bio en PACA, qui a été mis en place entre 2005 et 2010, qui a eu pour but dans les lycées d'introduire plus de nourriture biologique en instaurant une fois par semaine des repas 100% bio. Ça avait pour but d'ouvrir les esprits des gens et tout. Et on peut voir qu'en 2010, il y a eu un bilan. Elle s'est arrêtée en 2010. Et le bilan est très positif. Certains lycées continuent encore à utiliser de la nourriture biologique et locale, telle que le lycée S. Langon, on peut le dire. L'esprit des gens est quand même déjà beaucoup plus sensibilisé par rapport à l'alimentation biologique. Pour l'alimentation de demain, c'est un peu comme les énergies de demain. Il y a plusieurs options, mais il n'y en a pas une qui est vraiment la solution salvatrice. Parmi les solutions qui s'offrent à nous, on a par exemple la consommation d'insectes, qui sont déjà très populaires en Asie. Bien que dans l'esprit des gens, ce soit très mal vu, ceux qui ont goûté ont dit que c'était vraiment pas mauvais. On pourrait développer une sorte de gastronomie autour, histoire de les rendre agréables justement, et peut-être cacher le visuel. Il y a un bon avenir dans les insectes, surtout que ça consomme très très peu, tant en place qu'en eau, qu'en nourriture. Pour ça, c'est très bien. Mais par contre, il y a un inconvénient, c'est le prix. On est allé voir sur des sites qui proposent des insectes en boîte. Et bien, on peut voir que 100 grammes de fourmis, ça coûte 27 euros. C'est quand même un peu moins cher qu'un steak. Il y a aussi des alternatives pour remplacer la viande, telles que les steaks de soja, qui sont une bonne alternative et qui ont un goût assez ressemblant. Même si les steaks in vitro, par exemple, peuvent aussi être une alternative, ayant un goût plus proche du steak que le steak de soja. Sauf que le problème, c'est que ça coûte très très cher. Et sûrement dans un siècle ou 50 ans, on arrivera à faire des steaks in vitro pas trop chers, mais c'est vraiment pas sûr. Et puis, il y a aussi la solution un peu futuriste, comme on voit dans les films, c'est les gélules. Des gélules alimentaires, donc déjà, il y a beaucoup de compléments alimentaires. En France, on est très friands de ça, apparemment. Pour l'avenir, des scientifiques sont en train d'inventer des gélules qui contiendraient tout un repas dedans. Donc, le goût sera à revoir. Et surtout, d'ailleurs, en France, nous qui aimons beaucoup la gastronomie, on risque d'en prendre un coup. Pour l'instant, c'est encore une expérience. Il n'y a pas beaucoup de sujets dessus. On croit en ça. Donc, les trois solutions proposées, je pense qu'il faudrait faire un mix entre les trois et tenter de réduire notre consommation de viande, surtout la viande bovine, le bœuf, qui consomme énormément en eau et en nourriture. Il faudrait vraiment qu'il y ait aussi une action citoyenne, une action de chacun, de faire attention à ne pas trop gaspiller, aussi changer ses habitudes de consommation, préférer les produits biologiques et vérifier sur les emballages l'origine des produits, favoriser les produits d'origine protégée. Dans tous les cas, voilà, c'est pour le futur. On imagine une nourriture biologique, éco-durable, surtout avec la demande qui cesse d'augmenter. Hein. En 2050, on prévoit d'être 9 milliards sur la Terre. Déjà qu'on a du mal avec 7 milliards, on aura beaucoup plus de mal avec 9 milliards. Donc il faut penser à des alternatives.
Anthony, tu étais déjà sensibilisé à ces questions d'alimentation ?
Oui, à la cantine, quand on était petit, par exemple, il y avait beaucoup d'opérations où il y avait des dames qui venaient présenter des affiches et montrer, par exemple, les repas équilibrés, les repas biologiques, et qui nous faisaient goûter des trucs. Bon, je dois avouer que la qualité à la cantine n'était pas super, n'était pas au rendez-vous, mais ça a fait découvrir à beaucoup de gens, et beaucoup de gens s'en souviennent généralement des interventions comme ça. Et j'ai été sensibilisé, moi, personnellement, et je pense que beaucoup d'entre nous, des lycéens, ont été sensibilisés face à ça.
Lucine et Céline, vous êtes penchées sur les questions énergétiques.
Alors oui, en effet, notre sujet portait sur les énergies. Nous nous sommes alors renseignés sur toutes les différentes sources d'énergie qui puissent exister. Nous consommons de l'énergie partout et à tout moment, mais certaines deviennent épuisables. C'est pour cela qu'il faut faire du mieux pour améliorer le développement des énergies, car il est indispensable.
Comme l'a dit Céline, il existe plusieurs types d'énergie. Il y en a deux, il y a les énergies non renouvelables, qui donc sont comme les énergies fossiles carbonées, donc c'est le charbon, le gaz naturel et le pétrole, qui représentaient en 2006 79% de la consommation d'énergie mondiale contre 7% pour le nucléaire et seulement 14% pour les énergies renouvelables. Le deuxième type d'énergie, les énergies renouvelables, qui sont appelées aussi sources primaires d'énergie, donc nous en avons plusieurs. Nous, on trouve donc le soleil, qui peut aujourd'hui donc produire de l'électricité, l'eau que nous utilisons depuis toujours, le vent qui permet donc aujourd'hui le développement des éoliennes et la production d'électricité, la géothermie qui est la chaleur de la terre qui permet également de créer de l'électricité, et la biomasse qui est l'ensemble donc des matières organiques de la terre et qui est la deuxième source d'énergie utilisée dans le monde.
Comme Lucine vient de le dire, la source d'énergie la plus utilisée sont les énergies fossiles. Et le problème, c'est qu'elles deviennent de plus en plus rares et elles ont des conséquences sur la planète, notamment sur la couche d'ozone avec la production de gaz à effet de serre. Alors, il faut apprendre à consommer intelligemment. À la maison, par exemple, nous pouvons choisir des électroménagers de type A ou plus, ne pas laisser les appareils électroniques allumés la nuit,
choisir des ampoules qui consomment moins et qui durent plus longtemps, et aussi faire fonctionner les appareils ménagers tels que les machines à laver, la vaisselle, etc. pendant les heures creuses. En plus de contribuer à la réduction de la consommation d'énergie rare, vous pourrez même faire réduire presque de moitié vos factures d'électricité.
C'est à nous aujourd'hui de contribuer au développement de notre planète. Nous avons déjà assez abusé de ces énergies, et donc c'est à nous maintenant de prendre le relais et de trouver des solutions durables.
Un beau diagnostic qui est fait sur les consommations liées à l'énergie. À vos côtés, Léa et Laura, qui, elles, ont planché sur les déchets, aussi un autre volet important.
Nous avons choisi de travailler sur le recyclage et les déchets. La question que nous nous sommes posée durant toute cette année est comment les communes et leurs habitants s'adaptent-ils au recyclage et quel est l'impact surtout de nos déchets en France et dans le monde ? Nous avons dans un premier temps travaillé au niveau local, en se focalisant sur nos villes et villages respectifs, donc Manosque, Fort-Calquier, Volx et Saint-Martin-les-Eaux. Nous avons pu voir que dans nos villes, le recyclage est peu présent. Nos poubelles de tri sont insuffisantes par rapport au nombre d'habitants. Il y a très peu de poubelles jaunes, donc destinées au plastique, tout comme de poubelles bleues pour le papier et les journaux, et de poubelles vertes pour le verre. Les principales poubelles dans nos villes sont les poubelles classiques, celles où on y dépose nos sacs directement sans y avoir fait le tri. Pour recycler les autres déchets courants comme les piles et les ampoules, il faut se rendre dans les supermarchés puisqu'ils doivent être déposés dans des conteneurs spéciaux. Les médicaments, eux, doivent être ramenés dans les pharmacies. Sachant qu'il y a très peu de poubelles de tri aux alentours de chez nous, nous avons aussi étudié les autres options pour ne pas polluer et moins jeter dans les poubelles. Le compost est une des solutions, tout comme donner nos déchets consommables à nos animaux et réutiliser les plats consommés pour éviter le gaspillage. Cependant, pour que tout le monde puisse participer au recyclage, il faudrait que nos communes investissent davantage dans des poubelles de tri, ce qui serait vraiment primordial. Donc maintenant, je vais passer la parole à Laura qui va vous parler du recyclage en France et au niveau mondial.
Le recyclage en France, c'est 44,3 millions de tonnes de matières premières recyclées, 47,1 millions de tonnes collectées, un chiffre d'affaires de 12,4 milliards d'euros et plus de 33 000 emplois. Seulement, ce n'est pas assez par rapport aux quantités de déchets créés par les Français. Pas loin de 28 tonnes de déchets sont produits en France chaque seconde, soit 868 millions de tonnes par an. Les déchets proviennent surtout de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, la France est en retard par rapport à différents pays européens, comme l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique ou encore les Pays-Bas et la Suisse, qui ont franchi la barre des 50% recyclés pour seulement 37% en France. Nous avons aussi abordé le recyclage au niveau mondial. La Suède est le champion du recyclage. Ils recyclent 99% de leurs déchets. Ils ont compris que produire moins de déchets est la clé pour réduire la quantité de déchets. Ils ont aussi une politique de recyclage agressive qui se fait par ordre d'importance. La prévention, la réutilisation, le recyclage, les alternatives du recyclage et en dernier recours, la mise en décharge. Les USA, l'Italie sont les principaux exportateurs de déchets dans les pays émergents, ce qui a causé un accroissement en déchets d'équipements électroniques et électriques qui est passé de 5,9 milliards de dollars à 14,7 milliards de dollars. Nous avons aussi remarqué qu'en 2009, moins de 15% de plastique, 20% de zinc, 15% de cuivre sont recyclés dans le monde, ce qui est très peu. On peut aussi remarquer qu'une tonne de briques alimentaires recyclées permet d'économiser 2 tonnes de bois. Il y a 700 tonnes d'acier qui sont recyclées dans le monde chaque minute, par exemple. Pour finir, nous avons remarqué que le recyclage est devenu de plus en plus important dans notre société. Selon nous, il faut maintenir ces progrès pour le bien de notre planète.
Et vous-même, Léa et Laura, dans vos familles, vous recyclez vos déchets ?
Alors moi, j'habite à la campagne, alors j'ai les poules, alors on leur donne les restes.
J'ai commencé à recycler, oui, dernièrement, grâce à cet exposé, ça m'a bien fait prendre conscience des choses, donc de ce qu'il fallait faire.
Comment vous avez procédé par rapport aux villes et aux villages ? Vous vous êtes renseigné ?
Oui, on a téléphoné, on s'est d'abord rendu dans les mairies de nos communes respectives et on a demandé à parler à des personnes en charge donc de tous ces renseignements. On a aussi eu les numéros de téléphone de ces personnes pour pouvoir les joindre, mais malheureusement,
on a eu beaucoup de difficultés à avoir des réponses à tout ça parce qu'ils nous ont, enfin, on nous a pas donné vraiment des renseignements précis.
C'est bien dommage. Merci à toutes les deux pour ce travail réalisé. Enfin, Amy est à nos côtés et le sujet qu'elle a choisi, c'est...
Les outils de la politique climatique. Les pouvoirs publics, ils ont à leur disposition plusieurs moyens d'intervention pour pallier aux problèmes environnementaux qui sont complémentaires. Il y en a trois, c'est la réglementation, la taxation et l'instauration d'un marché de quotas d'émissions. Le choix de l'un ou l'autre de ces régimes d'action, ça dépend de plusieurs facteurs comme le coût ou encore la volonté de l'État d'obtenir une réduction indéterminée des externalités. Une externalité, c'est la conséquence d'une activité économique d'un agent qui n'implique pas le paiement d'un prix parce qu'elle n'est pas prise en compte par le marché. Ou alors, l'État peut décider de réduire un certain niveau fixé par avance. Donc, je vais parler en premier de la réglementation. La réglementation, c'est un instrument qui vise à édicter des règles, des normes environnementales qui permettent de limiter les pratiques polluantes des entreprises. Donc, il y a différents types de normes environnementales, il y en a quatre. Il y a les normes d'émission ou de rejet, qui consistent à fixer une quantité maximum de produits polluants. Les normes de processus, qui imposent l'utilisation de manières de produire moins polluantes. Les normes de produits qui imposent certaines caractéristiques aux produits pour les rendre moins polluants. Et enfin, les normes de qualité qui contrôlent l'eau et l'air régulièrement. Ces normes permettent d'obtenir une réduction stricte des émissions de polluants. On peut citer par exemple le protocole de Montréal en 1987, dont l'objectif était de supprimer les CFC et qui a mené à une reconstitution de la couche d'ozone progressivement. Mais ces normes, elles ont des limites, bien évidemment, il n'y a pas que des points positifs. Le degré de rigueur d'une norme n'est pas adapté et différencié en fonction de l'activité des entreprises. Ça ne fait donc pas baisser le taux de pollution efficacement. De plus, la réglementation n'incite pas à aller au-delà des normes, c'est-à-dire qu'une fois le seuil atteint, les entreprises ne continuent pas leurs efforts, et elles, même si elles le peuvent, car ce serait des coûts supplémentaires et ça limiterait les profits. Donc ensuite, je parlais du marché des quotas d'émissions. C'est un principe reposant sur le fonctionnement classique d'un marché avec des échanges de droits à produire des externalités négatives, donc comme j'ai expliqué en tout début. Ça a été mis en place par l'Union européenne en 2004 et il suit trois principes. Les pouvoirs politiques fixent un volume global d'émissions de CO2 qu'ils distribuent aux entreprises, c'est-à-dire des droits à polluer. Ensuite, il y a un échange qui a lieu entre les agents qui se vendent et s'achètent des quotas, mais il y a des coûts supplémentaires pour les agents les plus polluants, par exemple. Des bénéfices pour ceux qui polluent moins, ce qui incite à baisser les émissions de CO2. Mais ce marché est peu incitatif parce que le prix de la tonne de CO2, il est très faible. Et par exemple, quand les droits à polluer sont trop contraignants, les entreprises vont délocaliser ailleurs dans des pays où la réglementation est moins stricte. Donc ça fait partir les entreprises. Et enfin, l'efficacité de ce marché dépend surtout de l'efficacité de l'autorité de surveillance, mais c'est très coûteux à garantir. Pour finir, je parlerai de la taxation, qui est un instrument économique consistant à faire payer aux producteurs leurs activités sources d'externalités négatives au profit de la collectivité. La taxation, ça vise à faire supporter aux producteurs le coût social de leur activité ou bien de leur en faire retirer des bénéfices lorsque leur comportement est favorable à l'environnement. Il y a plusieurs exemples de taxes, par exemple le bonus-malus écologique, qui est une mesure fiscale faite en 2008 en France et qui a visé à augmenter la consommation des produits les moins polluants grâce à un bonus de l'État, ou bien à réduire la consommation des produits les plus polluants en imposant une taxe dans ce cas-là. Il y a aussi la taxe environnementale qui permet de réduire la pollution et qui permettrait aussi à l'État d'augmenter ses recettes budgétaires. Ces trois instruments, on peut finir en disant qu'ils permettent la mise en œuvre de politiques climatiques, ils doivent être utilisés de manière complémentaire pour augmenter leur efficacité.
Merci Muriel Morel. On voit bien avec ce dernier exemple développé par Amy le côté économie du développement durable.
Oui, alors ça fait partie effectivement intégrante de l'enseignement d'économie, cet aspect économique du développement durable que donc les élèves étudient en classe de terminale au lycée. Maintenant, il reste aussi, ça c'est l'engagement de l'État et des pouvoirs publics, donc aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Mais ce qui est important aussi aujourd'hui, je crois, que c'est que chacun ait pris conscience qu'on pouvait aussi agir dans une petite mesure, chacun à sa hauteur, chacun dans sa famille pour limiter son impact environnemental.
Et que dans une classe du lycée Félix Esclangon à Manosque, on a travaillé grâce à vous sur ces problématiques, c'est une bonne chose.
Oui, puis je remercie les élèves de s'être investis dans cette démarche cette année, puisque on avait c'était l'idée d'aborder une approche un peu citoyenne, et qu'on a choisi ce thème-là pour aborder cet aspect de la citoyenneté de demain.
Merci à tous. Merci.